Europe 1. Europe 1. On te la raconte.
À 10h du matin, le 24 décembre 1994, veille de Noël, le vol Air France en provenance de Paris atterrit sur l'aéroport Boumédienne d'Alger. L'escale doit être courte à cause de la situation. Car 4 mois plus tôt, au mois d'août, les islamistes du GIA ont assassiné 5 employés de l'ambassade de France. Depuis que les islamistes ont gagné les élections et que l'armée algérienne les a empêchés de prendre le pouvoir, le GIA fait régner la terreur en Algérie. Air France aurait bien voulu suspendre sa desserte d'Alger, mais le gouvernement français a refusé. Du coup, pour ce vol, comme pour tous les vols vers l'Algérie, les 12 membres de l'équipage sont des volontaires, y compris le commandant de bord, Bernard Delhem. Néanmoins, la consigne est claire. On ne traîne pas. Dès l'atterrissage, on fait rapidement le ménage de l'Airbus A300, on embarque dardard les passagers pour Paris et on redécolle. À 11h, on est dans les temps. Les 200 passagers sont à bord. Il y a des Français, des Algériens, ils vont passer les fêtes de fin d'année à Paris. Et évidemment, les coffres à bagages débordent de dattes, d'oranges et de gâteaux. Les pilotes sont en train de dérouler leur checklist. Et on s'apprête à fermer la porte de l'avion. Quand une voiture aux couleurs d'Air France s'arrête au bas de la passerelle. 4 hommes en sortent. Ils portent de longs imperméables. Ils grimpent l'escalier et se présentent comme des policiers. Ils sont armés. C'est un contrôle d'identité. Un peu surprenant, mais avec les Algériens, on peut s'attendre à tout. Celui qui a l'air d'être le chef pénètre dans le poste de pilotage. Les 3 autres remontent les allées de la classe affaires, puis de la classe économique. Au micro, le commandant fait une annonce.
« Des policiers vont procéder à un contrôle de passeport. Je vous demande de bien vouloir rester à votre place. »
Mais très vite, les passagers qui ont vu sur le tarmac parler hublot comprennent qu'il se passe quelque chose. Des voitures des forces spéciales algériennes, les ninjas, déboulent de tous les côtés. Et maintenant, elles encerclent l'avion. Et d'un coup, à l'intérieur de l'Airbus, la situation bascule. Les 4 hommes qui viennent de monter ne sont pas des policiers. L'un d'entre eux vient d'apercevoir les ninjas et il hurle « Les Happis ! Les Happis sont là !» Et maintenant, les voilà qui crient et qui ordonnent qu'on éteigne la lumière et qui regroupent les passagers sous la menace de leurs armes. C'est la panique. L'un des hommes annonce la couleur. « Nous ne sommes pas des policiers, nous sommes des moudjahidines du peuple. Dieu nous a désignés pour mourir. N'ayez aucune crainte. Dieu nous accueillera tous dans son vaste paradis. » Pas vraiment rassurant. Les passagers et l'équipage sont sous le choc. Il s'agit d'une prise d'otage. Et l'un des hommes brandit une bombe. Dans l'avion, tout le monde a compris. C'est le GIA. À Paris, le PDG d'Air France, Christian Blanc, est immédiatement informé de la situation. Il convoque une réunion de crise et il appelle le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. À ce moment-là, le Premier ministre, Édouard Balladur, n'est pas à Paris. Il est en train de rentrer de Chambéry. La situation est très délicate. L'avion est français. Mais la prise d'otage a lieu en territoire algérien. On pourrait envoyer le GIGN, mais les Algériens sont très susceptibles quant à leur souveraineté. Et encore plus quand il s'agit de leur ancienne puissance coloniale. Alors non, vous pouvez garder le GIGN. On s'occupe de tout. Malgré tout, à midi, les super gendarmes sont mis en alerte. On est la veille de Noël et la moitié des hommes sont en permission. On les rappelle d'urgence. Pendant ce temps-là, dans l'avion, les 4 membres du commando enfilent les uniformes de l'équipage. C'est pour tromper les éventuels snipers. Et ensuite, ils séparent les hommes des femmes et obligent les femmes à se voiler. C'est un certain Lofty qui est à la manœuvre. Les passagers qui n'emmènent pas large lui ont déjà trouvé un surnom. Il l'appelle le Maboule. Ça fait maintenant 2 heures que l'avion est immobilisé. Et le chef des pirates transmet par l'intermédiaire du commandant ses revendications. Il demande la libération de 2 chefs du GIA. Il veut qu'on les lui amène dans l'avion. Et après, ils décolleront pour Paris. La réponse du gouvernement algérien est claire et immédiate. C'est non. Hors de question de libérer les djihadistes qu'on lui réclame, hors de question de laisser l'Airbus repartir vers Paris. D'ailleurs, pour l'instant, la passerelle est toujours en place. Impossible de décoller. Dans l'Airbus, la tension monte. Le commandant demande plusieurs fois à la tour de contrôle qu'on enlève cette fichue passerelle. À un moment, le chef du commando s'empare du micro. Il hurle dans la radio. « Vous allez voir qu'on est sérieux. Nous sommes des soldats de Dieu !» En contrôlant les passeports, tout à l'heure, le chef, qui se fait appeler Yaya, a repéré parmi les passagers un officier de la police algérienne. Il va le voir. « Suivez-nous, vous allez nous aider. » L'homme prend son bagage, il se lève, mais il traîne, on sent qu'il hésite. Il a sans doute compris. Yaya demande au steward d'ouvrir la porte. « Allez porter notre message au gouvernement. » Le policier s'engage sur la passerelle et l'un des membres du commando lui tire une balle dans la tête, par derrière, comme les lâches. Et on referme la porte. Et le corps reste là, affalé sur la passerelle. Personne n'osera venir le chercher. Il est 13h30, la prise d'otage a fait sa première victime. Dans l'avion, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. C'est une hôtesse qui discrètement prévient le commandant. Un passager a été abattu. À Paris, on hésite. Entre ceux qui pensent que c'est un problème algérien et qu'il faut laisser faire les Algériens, et ceux qui veulent faire venir l'avion en France, comme le demandent d'ailleurs les preneurs d'otages. Finalement, la France se déclare prête à accueillir l'avion. Mais les Algériens, toujours blessés dans leur orgueil, ne veulent rien entendre. Ils ont leur plan. Dans un premier temps, il demande au commando de relâcher des passagers. À 14h30, le commando sélectionne 47 passagers algériens. Ils les choisissent au hasard, en remontant les allées de l'avion et à la pointe du canon de leur arme. Toi, 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 non pas toi, toi, toi et toi. Au final, il n'y a que des personnes âgées et des femmes. Tous sont libérés. Mais qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Le temps passe et les ninjas encerclent toujours l'avion. Alors le chef vient chercher un deuxième passager. Il s'appelle Jiang To. Il est vietnamien, conseiller commercial à l'ambassade du Vietnam à Alger. Il pense peut-être qu'on va le libérer. En tout cas, il prend le temps de ramasser et de ranger ses affaires. On ouvre la porte et il est abattu d'une balle dans la tête tirée de dos sur la passerelle. Son corps va rester là, à côté de celui du policier. À 16h, les terroristes autorisent l'équipage à servir un repas aux passagers. Sans alcool, bien sûr. Du coup, dans l'avion, l'ambiance se détend un peu. On voit même les preneurs d'otages discuter et même plaisanter avec les passagers. Maintenant, tout le monde connaît leur surnom. Yaya, c'est le chef, avec son visage de gamin et ses lunettes d'intello. Un look de premier de la classe. Lui reste la plupart du temps dans le poste de pilotage. Et puis il y a Lofty, le Maboule. Celui-là, oh, il fait peur à tout le monde. C'est une boule de haine qui raconte à qui veut l'entendre qu'il a été prisonnier et torturé. Il y a aussi Bill, avec ses airs d'adolescent perdu. Celui-là, on ne l'entend jamais. Enfin, le quatrième, qui n'a pas de surnom. C'est le tueur. C'est celui qui a abattu les deux premiers otages. Grand, assez beau gosse, glacial. Les hôtesses proposent aux membres du commando un plateau repas et des boissons. Ils refusent, ils se méfient. À 17h30 à Paris, le patron du GIGN, Denis Favier, reçoit l'ordre d'envoyer ses hommes sur l'île de Majorque, aux Baléares. Ils iront dans le même avion, un Airbus A300 d'Air France, avec un équipage Air France. Comme ça, ils pourront se familiariser avec l'avion et se préparer à une intervention. À Alger, la nuit tombe. Les passagers tentent de dormir comme ils peuvent, quelques heures. Et l'équipage cherche à créer des liens avec les quatre du commando. Ils ont été formés pour ça. Calmer le jeu, donner confiance et surtout faire durer. Il y a même un moment où Yaya, comme un enfant émerveillé, se fait expliquer le fonctionnement de l'avion dans le cockpit. Et un autre moment où, en gage de bonne volonté et de respect, deux hôtesses se convertissent à l'islam. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohamed est son prophète. Elles prononcent cette phrase, elles deviennent musulmanes. Quant au Maboul, il passe la nuit à déambuler dans l'allée centrale en psalmodiant des versets du Coran. ...6h45... le matin de Noël. La nuit s'achève et rien n'a bougé.
Une nuit d'angoisse donc pour les 208 passagers de l'Airbus d'Air France, pris en otage hier matin par un commando de 4 hommes armés. Les ravisseurs ont pour l'instant relâché 63 personnes, la plupart des femmes et des enfants. Deux passagers ont été tués. Leurs cadavres reposent toujours au pied de la passerelle de l'avion. Alors en ligne avec nous, Rachid Kerry, notre correspondant. Rachid, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les dernières informations que vous avez en votre possession ?
Ben, 21 heures après la prise d'otage, les choses sont toujours au point mort.
À Paris, on s'impatiente. Le gouvernement d'Edouard Balladur demande à nouveau aux Algériens de laisser décoller l'avion vers Paris. Nouveau refus. Les Algériens préfèrent négocier sur place. Ils exigent une nouvelle libération, mais refusent toujours d'enlever la passerelle et de faire reculer les ninjas, les forces spéciales.
Quelle est l'attitude du gouvernement algérien depuis le début de cette prise d'otage, Rachid ?
Le gouvernement algérien semblait soucieux de préserver les vies humaines. Le ministre de l'Intérieur qui est intervenu a tenu à donner son appréciation de la situation. Il a dit qu'il essayait de convaincre, de les obliger, d'obliger les preneurs d'otages en quelque sorte à devenir raisonnables. Et il ne semble pas exclure a priori l'idée d'une prise d'assaut, mais elle semble extrêmement difficile. C'est pour cela que les autorités essayent de parlementer, essayent de mener au bout les tractations.
À un moment donné, le commando propose de relâcher tous les Algériens, 138 passagers, et de ne garder que les Français. Dans un geste assez formidable de solidarité, les Algériens refusent de partir. Ils partiront avec les Français ou ils ne partiront pas. Dans la foulée, les policiers algériens tentent un coup. Ils font venir la mère de Yaya jusqu'à la tour de contrôle. Et à la radio, elle tente de convaincre son fils de se rendre. Il est furieux. « Je t'aime, maman. Je t'aime. Mais j'aime Dieu plus que tout. On se retrouvera au paradis. » Et puis les terroristes posent un nouvel ultimatum. Si à 21h la passerelle n'est pas retirée, ils exécuteront un nouvel otage. Ils en ont repéré deux la veille, qui feront l'affaire. Des Français qui travaillent à l'ambassade, un cuisinier et une secrétaire. À 21h10, Yaya vient chercher le cuisinier. Il s'appelle Yannick Beunier. Il a 28 ans. Il l'amène jusqu'au cockpit pour passer un message à la tour de contrôle. « Dis-leur que s'ils ne nous laissent pas partir, on va tuer un passager toutes les demi-heures. »« Allô ? Je m'appelle Yannick Beunier, je travaille à l'ambassade de France. Notre vie est en danger. Si vous ne faites rien, ils vont nous exécuter. » En sortant du cockpit, Yaya demande à un de ses acolytes une balle de calibre 6. L'autre se trompe de calibre et se fait engueuler. Alors ils disparaissent tous les deux chercher la bonne balle. Yannick reste là, debout, digne. Il sait très bien ce qu'il attend. Yaya lui tire une balle dans la tête et jette le corps sur le tarmac. On en est à 3 morts. C'est le premier Français. À Paris, évidemment, ça fait réagir. Édouard Balladur appelle le chef d'État algérien. La conversation est assez froide. Paris veut bien comprendre la susceptibilité d'Alger, mais là, un Français est mort. Ça change la donne. Je considère le gouvernement algérien responsable de ce qui va se passer. Et je le ferai connaître à l'opinion internationale. La fermeté française paye. À 1h du matin, le 26 décembre, les ninjas dégagent la piste. On enlève la passerelle. L'Airbus A300 est autorisé à décoller pour la France. Mais la tour signale un gros problème. Ça fait 36 heures que l'avion fait tourner son moteur auxiliaire, celui qui fournit l'électricité et le chauffage à l'avion. Vous n'aurez pas assez de carburant pour rejoindre Paris. C'est un gros mensonge. En vérité, il y a assez de kérosène. Mais le but est de les faire atterrir à Marseille. Là, on vous fera le plein et vous pourrez redécoller vers Paris. À 2h02, très précisément, le 26 décembre, l'avion décolle. Entre-temps, on a rapatrié le GIGN, il a quitté Majorque pour Marseille-Marignane. Les super gendarmes viennent de prendre possession d'un hangar, ils se préparent. Et alors que l'avion est en vol, le consulat de France à Oran reçoit un appel anonyme. Les terroristes veulent utiliser l'avion pour commettre un attentat sur Paris. Alors c'est décidé. Quoi qu'il arrive, l'avion ne repartira pas de Marseille. À 3h12, le matin du 27 décembre, l'Airbus d'Air France se pose à Marseille. L'aéroport a été fermé au trafic. Tous les vols ont été détournés et toutes les lumières sont éteintes. Au sol, le commandant ne voit que le gyrophare du Follow Me, la voiture que l'avion doit suivre jusqu'à son point de stationnement. Le Follow Me ne se dirige pas vers l'aérogare. Il conduit l'avion vers la zone nord, une zone isolée, entourée de terrains vagues. L'endroit n'a pas été choisi au hasard, bien sûr. Depuis la tour de contrôle, on voit parfaitement l'Airbus. Et c'est idéal pour les tireurs d'élite. Et il y en a partout, tapis dans l'ombre. Dans la lunette de leur fusil, à travers les hublots, ils apprennent à distinguer les terroristes, des passagers et de l'équipage. Un peu plus loin dans un hangar, les hommes du GIGN continuent à se familiariser avec l'Airbus A300. À ce moment-là, Yaya, le chef du commando, pense que ça va durer quelques minutes, pas plus, le temps de faire le plein et éventuellement de vidanger les toilettes. Et qu'ensuite, il ira à Paris où il veut donner une conférence de presse. Mais pour les Français qui ont la main, désormais, l'essentiel est de gagner du temps. Ils jouent sur la fatigue des membres du commando qui n'ont pas mangé et qui n'ont pas dormi depuis 3 jours. Attendre, c'est donc ça le plan. Et laisser le temps au GIGN de peaufiner son intervention.
Alors nous sommes en ligne avec le commandant Paul Baril, l'ancien chef du GIGN. Bonjour commandant.
Oui, bonjour.
Commandant, l'appareil est maintenant immobilisé en France depuis de nombreuses heures. Est-ce qu'on sait ce qui se passe à l'intérieur?
Les moyens techniques des groupes d'intervention, que ce soit audio ou visuel, leur permettent à chaque instant de connaître exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'avion, de connaître l'ambiance, d'évaluer les possibilités d'exécution, d'évaluer les possibilités également de doute, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens, eux, qui sont à l'intérieur, le commando, n'a pas des liaisons avec leur base arrière. Si toutefois ils en ont une, ils délirent un peu, ils ne savent pas trop où ils vont. Leur seul souci, c'est peut-être de sauvegarder la vie et puis de sauvegarder la face.
Dans la seconde où l'avion s'immobilise à son point de stationnement, Yaya, le chef du commando, réclame 27 tonnes de carburant par radio à la tour de contrôle. C'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour aller à Paris. Et pour les autorités, ça confirme l'hypothèse d'un attentat suicide sur la capitale. Dans la tour, le préfet de région a pour consigne de gagner du temps. Il explique que c'est Noël, que les employés en charge du carburant ne sont pas arrivés. Et plus tard, il dit qu'ils sont bien arrivés, mais qu'ils ont peur. Gagner du temps. Gagner du temps. Yaya répond que si ça continue, il va tuer un otage toutes les demi-heures. Pour calmer les esprits, un camion-citerne est avancé près de l'avion. Mais personne n'en descend. Nouvelle négociation.
Nous allons à Marseille rejoindre l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, Christian Roda. Marseille qui est considéré apparemment par les preneurs d'otages comme seulement une escale technique, c'est cela Christian ?
Oui, tout à fait. Depuis qu'il était mobilisé sur l'aéroport de Marseille-Provence, la 320 d'Air France est sous les feux des projecteurs qui n'ont pas encore éteint malgré le lever du jour. Mais en croire les informations données par le préfet, rien ne devrait se passer ici. Monsieur Géin a confirmé que Marseille n'était qu'une escale technique. Tout confirme donc que l'appareil devrait redécoller.
C'est Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, qui a fait fuiter cette information selon laquelle l'avion va poursuivre sa route vers Paris. C'est une ruse. En fait, il a déjà donné son feu vert pour une intervention du GIGN. Mais le commandant Favier n'est pas prêt. Il craint que les terroristes aient piégé les portes de l'avion avec des explosifs. Il faut encore gagner du temps. Alors le préfet appelle Yaya et lui propose d'organiser sa conférence de presse à bord de l'avion. Pourquoi aller à Paris ? Toute la presse mondiale est sur place, à Marseille. Et Yaya accepte. Il veut parler à CNN. CNN, ok. Mais vous savez, le temps de faire venir les techniciens et les journalistes, la conférence de presse aura lieu à 14h45. Et pour que les journalistes puissent travailler, il faudrait dégager l'avant de l'avion et regrouper tous les passagers à l'arrière. Mais à l'heure dite, les journalistes ne sont pas là. Gagner du temps. Il faut gagner du temps. On repousse. D'une heure, d'une demi-heure et encore d'une heure. À 17h, toujours pas de CNN. Les terroristes sont à bout de nerfs. Mais le GIGN veut attendre la nuit. Continuer de gagner du temps. La stratégie divise. Ils peuvent recommencer à tuer à n'importe quel moment. Et soudain, les réacteurs se remettent en marche. L'avion commence à bouger. Mais la piste est barrée par des véhicules. Il ne pourra pas décoller. Pourvu qu'il n'aille pas faire exploser l'avion sur la tour de contrôle. Mais non. L'avion s'arrête. Le chef a juste demandé au commandant de bord de déplacer l'avion, de le rapprocher de la tour. Rien de plus. Ouf ! À un moment, un des pirates ouvre une fenêtre latérale du cockpit et se met à mitrailler la tour de contrôle au point que le PDG d'Air France, Christian Blanc, est contraint de se jeter à terre. Les terroristes sont à bout. Il ne faut plus traîner. Il faut lancer l'opération. Depuis qu'il a bougé, l'Airbus est tout proche de la tour de contrôle. Ça change la donne. Les hommes du GIGN doivent se repositionner. Les tireurs d'élite doivent se déplacer et s'installer sur le toit de l'aérogare. Le colonel Favier est obligé d'établir une nouvelle stratégie en urgence. Et il choisit l'attaque éclair, comme une charge de cavalerie, sauf qu'on utilisera des passerelles à la place des chevaux. Des passerelles jugées sur des camionnettes. 3 passerelles, 30 gendarmes. L'idée est qu'une première équipe de 8 hommes ouvre la porte avant droite, prenne le contrôle du cockpit et neutralise le chef du commando. 2 autres passerelles emmèneront chacune 11 hommes et attaqueront les portes arrière des deux côtés. Leur mission est d'évacuer le maximum de passagers. À 17h12, le commandant Favier lance l'assaut. Ses hommes sont à plus de 150 mètres de l'avion et ils s'approchent avec les 3 passerelles motorisées. Et tout ça, on peut le voir en direct à la télévision. Et oui, sur la toute nouvelle chaîne d'information continue, LCI. Les terroristes ouvre la porte arrière droite et commence à tirer. Aucun gendarme n'est touché. La première passerelle arrive au niveau de la porte avant droite.
Mais ça coince. Impossible d'ouvrir la porte. La passerelle est trop haute. Et oui, il s'était entraîné sur un avion vide. Quand l'avion est plein, il est plus lourd. Et donc il s'enfonce, il est plus bas, de pas grand-chose, de quelques centimètres. Mais la porte est bloquée par la passerelle. Moment de flottement. Il faut donc reculer et se lancer dans un exercice périlleux qui consiste à ouvrir la porte en se penchant dans le vide. Un premier gendarme pénètre dans l'avion. À ce moment-là, les quatre terroristes sont retranchés dans le cockpit. Quand il se présente à l'entrée du cockpit, ce premier gendarme aperçoit un homme à sa droite, à genoux, en uniforme de steward, qui lui tire dessus avec un pistolet automatique. Et un autre, en face de lui, avec un Uzi. Et encore un autre, juste derrière le siège du copilote, armé lui aussi. Ça va très vite. Le gendarme neutralise d'abord l'homme au centre, puis celui de droite. Mais en retour, il reçoit 7 balles. La dernière le touche au visage. Il est projeté en arrière. Ça va lui sauver la vie. Mais déjà, 4 autres gendarmes entrent dans l'avion. Les terroristes leur tirent dessus. Quelqu'un crie « Grenade !» Effectivement, on voit une grenade rouler sur le sol et elle explose. Et maintenant, tout l'avion est envahi par de la fumée. À ce moment-là, comme prévu, les 2 groupes de gendarmes pénètrent par l'arrière. Ils ne rencontrent aucune résistance. Ils hurlent aux passagers de se coucher et progressivement, ils avancent vers l'avant. Dans le cockpit, le copilote ouvre la fenêtre. Il se jette dans le vide. Il fait une chute de 6 mètres et s'écrase sur la piste. À ce moment-là, un tireur d'élite abat l'un des membres du commando. À l'arrière, on commence l'évacuation des passagers. On déploie un toboggan et un par un, les passagers glissent vers la liberté. En bas, ils doivent ramper pour se mettre à l'abri derrière les camions de pompiers et les ambulances. Le risque, bien sûr, c'est qu'un membre du commando se glisse parmi eux. Les gendarmes les contrôlent au fur et à mesure. En moins de 6 minutes, la quasi-totalité des passagers est évacuée. Dans le cockpit, il ne reste plus qu'un terroriste, le pilote et le mécanicien. Le combat continue, il va encore durer plusieurs minutes jusqu'à ce que le dernier terroriste soit neutralisé. La bataille a duré 16 minutes, 16 longues minutes. Et maintenant, le GIGN fouille l'avion. Ils ne savent pas combien il y avait de terroristes dans cet avion. Ils sont prudents, et d'ailleurs, le commandant et le mécanicien sont les derniers à quitter l'appareil menottés. Les 177 passagers et membres d'équipage sont sains et saufs. Le GIGN a tiré plus de 1000 balles. L'avion est devenu une passoire. Et de fait, tous les objectifs sont remplis. Le commando du GIA n'a pas pu utiliser l'avion pour commettre un attentat et aucune de ses revendications n'a été acceptée. Tous les passagers qui étaient dans l'avion à l'atterrissage à Marignane sont vivants. Il n'y a que quelques blessés légers. Le pilote est un miraculé. Il a reçu 2 balles au coude et à la cuisse, mais il s'en sort. Et le copilote est blessé après sa chute de l'avion, mais il s'en sort aussi. C'est sur cette base qu'à 18h, le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, annonce la réussite de l'assaut.
Le bilan est toujours trop lourd. Le Premier ministre vient de rendre un hommage mérité au GIGN qui a conduit une opération pleine de risques, car aucune reconnaissance n'avait pu être faite auparavant. Et lorsqu'à 17h, nous avons entendu 2 coups de feu, bien nous sommes immédiatement intervenus.
Il y aura bien quelques grincheux pour s'étonner tout de même qu'on ait tiré 1000 balles pour neutraliser 4 hommes. Sans compter ceux qui se moquent allègrement de l'épisode de la porte, ce moment où le GIGN n'arrive pas à ouvrir la porte de l'avion parce que la passerelle est trop haute. Les 4 membres du commando sont morts. Ils seront tous inhumés en France parce qu'aucun membre de leur famille en Algérie ne les réclamera. Le GIA revendique cette prise d'otage et déclare que les 4 djihadistes sont des martyrs. Et il proclame aussi que la lutte contre la France est devenue un devoir légal. Et il promet de rendre coup pour venger les croyants et frapper la France. 1 an plus tard, le GIA signera une vague d'attentats à Paris, dont celui du métro Saint-Michel. Le GIA qui confirmera, beaucoup plus tard, que l'objectif était bien de faire s'écraser l'avion sur Paris. Dès le lendemain de l'opération, un avion rapatrie tout le monde à Paris, et c'est l'heure des retrouvailles. À la sortie de l'avion, les membres du GIGN sont applaudis par la foule.
Minuit moins le quart, Nicolas Sarkozy arrive. Un bruit court, l'avion aura beaucoup de retard. 2h20, on entend le bruit fracassant des réacteurs. L'appareil n'est qu'à 30 mètres du pavillon. On joue d'écoute pour voir à l'extérieur. La porte s'ouvre enfin. Tonnerre d'applaudissements ponctués du you-you de quelques femmes à l'entrée des premiers ex-otages. Les hommes du GIGN ne sont pas loin.
Je vous invite bien sûr à aller voir sur internet les images filmées à l'époque en direct par LCI, images ahurissantes d'une opération retransmise en direct, et c'est une première, et vous vous doutez qu'après il y a eu des polémiques. Le patron du GIGN dira, dans la revue de la Gendarmerie nationale, « Les médias nous ont concrètement gênés avant, pendant et après l'opération ». Et puis je vous signale qu'il y a eu un film inspiré de cette opération, « L'assaut », sorti en 2011.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.